Bonjour Hélène Roussel.
Bonjour.
Avec à la une ce matin, la France qui avance de 2 heures. Couvre-feu dès 18h pour tout le monde à partir de ce soir. Et c'est comme ça au moins pour 15 jours. Les autres titres ce matin, Hélène.
Dans la lutte contre le Covid, il y a aussi la course au vaccin. 1 million de personnes hier ont pu prendre rendez-vous. 800 centres ouverts un peu partout. Alors que Pfizer annonce un retard dans ses livraisons, le contretemps qui tombe très mal. La France qui part aussi à la chasse aux mutants. Un cas de variant sud-africain et dépistage XXL en région parisienne aujourd'hui. Et puis un témoignage rare dans ce journal, celui d'une ancienne patineuse victime de Gilles Beyer, l'entraîneur mis en examen pour agression sexuelle.
L'invité ce matin à 8h20, ce sera Aurore Berger, la députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.
France Inter.
Ça commence donc ce soir, permission de 18h pour tous et sur tout le territoire, dérogation pour rentrer du travail, ramener les enfants de l'école ou promener le chien, mais pas sans attestation. Un couvre-feu comme un rempart, suffisant, espère le gouvernement, pour contenir l'épidémie et éviter dans les prochains jours d'avoir à prononcer à nouveau le mot confinement. Un couvre-feu qui n'est pas vécu partout de la même manière. Castelmoron-d'Albret en Gironde, 52 habitants, le plus petit village de France par sa taille, ça passe tout seul. Reportage d'Yvan Planteil.
Ce couvre-feu deuxième version devrait passer un peu inaperçu ici, à Castelmoron-d'Albret. Ses habitants relativisent et même beaucoup pour certains.
Ça avance l'heure de l'apéro.
Ça change rien.
Alors le deuxième, c'était le maire, André Grèze. Et pour lui, avec la saison et le profil de ses administrés, ça va passer comme une lettre à la poste.
On n'est pas à Bordeaux. On vit le confinement de façon tout à fait douce. Les gens sont rentrés à 18h ici. D'autant plus à cette saison-ci où il fait nuit de bonne heure. Beaucoup de travailleurs dans les vignes, donc à 18h, ils sont rentrés. Et puis, beaucoup de retraités, donc eux, ça les gêne pas du tout.
Ou bien en retraite active comme Hélène, cette avocate dans le droit des affaires travaille encore. Et si elle n'a pas le temps de faire ses courses, rien de gravissime.
Comme n'importe qui, vous avez de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre, des nouilles, et on cultive même ses propres légumes. Donc on a tout ce qu'il faut, aucun problème.
En revanche, peut-être que c'est plus contraignant pour Marie. Elle travaille à Libourne, et la campagne, c'est encore tout nouveau pour elle.
Libourne, on est à 35-40 minutes. C'est vrai que là, ça risque d'être un peu short. Le seul truc qui va changer, c'est vraiment prévoir, s'organiser et pas de faire d'emplettes de dernier moment, quoi.
Et puis l'avantage d'un village de cette taille, rappelle le maire, c'est que si quelqu'un manque d'huile, de vinaigre ou de sel, les autres habitants ne sont jamais loin pour l'aider.
Voilà la solidarité dans ce village de Castelmoron-d'Albret, reportage Yvan Planteil de France Bleu Gironde.
Situation stable mais fragile, avait dit Jean Castex jeudi à propos des chiffres du Covid. D'autant plus fragile que tout dépend à présent de la vaccination.
Et que sans prévenir hier, comme un coup de massue, Pfizer annonce réduire les livraisons de son vaccin en Europe jusqu'à début février. Le groupe va rénover son usine située en Belgique pour fabriquer à terme plus de doses et plus vite. Pfizer promet de compenser d'ici la fin février, mais dans une Europe qui se lance dans la vaccination à tour de bras, ça ne pouvait pas tomber plus mal. On évoque un retard de 3 à 4 semaines. Il va falloir ajuster le rythme des vaccinations dans les semaines à venir, prévient l'Élysée hier soir. Et quand on vous dit que ça tombe mal, pile au moment où le gouvernement appuie sur le starter, plus de 800 centres de vaccination ouverts à partir de lundi. Retrouvez la carte d'ailleurs sur franceinter.fr. Les numéros verts pris d'assaut hier, le site santé.fr aussi. Résultat, plus d'1 million de personnes de plus de 75 ans ou vulnérables ont pu prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans les jours qui viennent. Et puis toujours ces clones, ces variants, ces mutants qui planent. Le britannique, qui pourrait bien devenir le virus dominant en mars en France, selon une récente étude. Le brésilien, qui inquiète beaucoup aussi. Et puis il y a le sud-africain, un habitant du Val-de-Marne, de retour du Mozambique, est porteur de ce variant. Il est hospitalisé, mais puisqu'il a fréquenté de nombreux établissements scolaires en région parisienne, c'est une opération de dépistage taille XXL qui commence. Information France Bleu Paris, signé Adrien Serrière.
Des équipes de dépistage sont arrivées hier après-midi dans 5 établissements scolaires, à Colombes, Maison-Alfort, Bonneuil-sur-Marne, Fleury-Mérogis et dans le 19e arrondissement de Paris. Leur point commun, abriter des élèves susceptibles d'être cas contact d'une personne positive au variant sud-africain. Pour l'heure, un seul cas est recensé en Ile-de-France. L'habitant du Val-de-Marne, revenu récemment d'un voyage au Mozambique. Après traçage, plusieurs de ces cas contacts se sont révélés positifs au Covid-19, dont des enfants, mais on ne sait pas encore s'il s'agit chez eux du variant sud-africain. Le séquençage est en cours. En plus des tests dans les établissements scolaires, des centres de dépistage ouvrent aujourd'hui dans toutes les villes que j'ai citées. Chacun peut y accéder, mais priorité aux enfants des établissements et à leurs familles, précise l'Agence régionale de santé.
Et voici un pays pour illustrer le marathon vaccinal qui s'annonce. L'Inde, le coup d'envoi d'une méga campagne de vaccination gratuite aujourd'hui. 300 millions de personnes vaccinées d'ici l'été, espère le gouvernement, soit l'équivalent de la population américaine. Un défi logistique a donné le vertige. Correspondance et reportage, Sébastien Farcy.
300 millions de personnes, c'est le nombre d'Indiens qui seront vaccinés rien que pour la première phase de 6 mois. Ce sont les personnels de santé, les policiers ou autres personnes âgées de plus de 50 ans. Deux vaccins seront inoculés gratuitement, celui d'Oxford AstraZeneca et un autre du géant indien Bharat Biotech. 16 millions de doses, toutes fabriquées en Inde, ont déjà été livrées pour cela. À terme, l'un des défis sera de maintenir la chaîne du froid à tous les niveaux, comme l'explique Ritu Priya, professeur de santé publique à l'université Jawaharlal Nehru de New Delhi.
I don't anticipate in this phase.
Pour la phase initiale, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de gros problèmes logistiques. Par contre, quand la vaccination sera déployée pour la population entière et dans les campagnes des régions moins développées, il pourrait y avoir des difficultés. Mais par chance, ces vaccins doivent être conservés entre 2 et 8 degrés, les mêmes températures que pour ceux du programme habituel de vaccination universelle. Donc l'Inde a déjà un énorme réseau de chaînes du froid.
Le gouvernement s'appuiera sur une application mobile appelée Cowin pour enregistrer et suivre les rappels de vaccination. Les experts estiment que cela pourrait prendre jusqu'à 2 ans pour vacciner toute la population indienne. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
En bref, Joe Biden, qui devient le 46e président des États-Unis mercredi prochain, a déjà annoncé la couleur. Il veut ouvrir des milliers de centres de vaccination, atteindre les 100 millions de doses injectées sur les 100 premiers jours de son mandat. Et puis on en sait plus sur cette journée d'investiture, mercredi à l'aube. Donald Trump, qui l'a dit, refuse d'être présent. Eh bien Donald Trump prendra une dernière fois l'Air Force One dès l'aube pour quitter la Maison Blanche une bonne fois pour toutes. Il s'envolera alors pour son club de Mar-a-Lago en Floride où il a l'intention de s'installer.
En sport, en football précisément, le Covid vient de mettre le nouvel entraîneur du PSG sur la touche.
Mauricio Pochettino, dépisté positif et isolé, ce sont ses adjoints qui vont prendre le relais pour la rencontre ce week-end face à Angers. Et puis pour la première fois depuis novembre, un match de Ligue 1 a dû être reporté. Lorient-Dijon n'aura pas lieu dimanche, flambée des cas chez les Merlus. On en avait beaucoup parlé quand le scandale a éclaté, c'était il y a un an, agression sexuelle dans le patinage, révélation de Sarah Abitbol. L'enquête a depuis bien avancé. Gilles Beyer, l'ancien entraîneur, a été mis en examen cette semaine. Au total, 6 femmes, toutes majeures, ont témoigné dans cette affaire. La perspective d'un procès les soulage, mais reste le traumatisme. Jérôme Val.
Sabina Mahamoud n'a pas oublié les messages obscènes envoyés par Gilles Beyer ni les gestes déplacés entre 2017 et 2018. Et pourtant, elle s'est tue pendant des mois pour ne pas porter préjudice, dit-elle, à sa fille Najma Mahamoud, championne de France junior en 2014. Arrivée au club des Français volants à Paris fin 2017, la jeune patineuse est prise en charge par Gilles Beyer. Elle aussi subit les avances de son entraîneur. Cette affaire l'a brisée, regrette sa mère.
À cause de ça, ma fille, ça a gâché depuis des années qu'on est dans ce milieu. Et là, elle est dégoûtée. Quand je l'ai vue à Noël, là, elle a pris du poids, mais laisse tomber. Elle a dit oui, parce que je fais plus de sport. C'est fini pour moi et tout, nanana. Ça a tout brisé.
La mise en examen de Gilles Beyer et la perspective d'un procès n'apaisent pas la colère de Sabina Mahamoud, qui réclame aujourd'hui justice.
J'attends qu'il soit puni de ce qu'il a fait à tous ses enfants et tous les parents et tout. Tant que j'ai pas entendu qu'il a été sanctionné, qu'il a été emprisonné, je crois pas que ça va m'apaiser. Il a gâché la vie de ma fille et la mienne aussi.
À l'annonce de cette mise en examen, Sarah Abitbol, comme les autres victimes, a confié être soulagée que la justice convoque enfin Gilles Beyer.
Jérôme Val. Enfin, attention, chute de neige et verglas sur les routes, alerte météo en région parisienne et dans les Hauts-de-France, mais on va en parler, Eric, tout de suite maintenant, je crois.
Exactement, Hélène Roussel.
La météo avec Via Santé. La mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Effectivement, Jean-Michel Golinski, attention à cette vigilance, neige et verglas à la une ce matin.
Ah, tout à fait Eric, avec la pluie en provenance de la pointe ouest qui arrive sur des températures négatives en pénétrant dans l'intérieur. Conséquence, elle va se transformer en neige et en pluie verglaçante ce matin sur la Haute-Normandie et le Val-de-Loire, à la mi-journée sur les Hauts-de-France, le bassin parisien et le centre, et plus tard en soirée sur Champagne-Ardenne, de la Bourgogne au nord de Rhône-Alpes ainsi que sur le Massif central. Dans cette large zone, 26 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Notez qu'à l'arrière, le temps va tourner à la pluie. Déjà ce matin sur la Bretagne où il fait une dizaine de degrés contre moins 12 sur la Lorraine, généralement entre moins 3 et moins 6 sur les autres régions. Le tiers sud va conserver un temps sec avec du vent près de la Méditerranée. Vent également sensible aujourd'hui au nord de la Loire.
Jean-Michel Golinski de Météo France.